RCF. RCF, il est 19h.
Le journal, Laurette Duranel.
Bonsoir à tous et à toutes. À la une ce soir, l'ouverture du procès en appel de l'attentat de Nice avec des témoignages forts attendus, ceux d'enfants victimes qui s'exprimeront pour la première fois. On y revient dans ce journal. L'actualité, c'est aussi Pessah, la Pâque juive qui a commencé aujourd'hui. Une fête en temps normal joyeuse qui prend une toute autre dimension 6 mois après l'attentat du 7 octobre en Israël. Enfin, dans notre long format ce soir, on se penchera sur la sécheresse avec un focus particulier sur les Alpes-Maritimes, où malgré les précipitations des derniers mois, l'inquiétude reste grande pour l'avenir. Huit ans après le terrible attentat sur la promenade des Anglais à Nice qui avait fait 86 morts et des centaines de blessés, le procès en appel s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Deux accusés condamnés à 18 ans de réclusion sont rejugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Un procès particulier puisque des enfants victimes vont témoigner. Pour certains, ce sera la première fois car trop jeunes lors du premier procès fin 2022. Ils préparent ce moment avec sérieux et explique à Gerben Oisy, présidente et fondatrice de l'association Une Voix des Enfants.
Ils sont fermement déterminés à le faire. Ils ont besoin de le faire. C'est ce qu'ils expriment, puisque moi j'ai posé la question à ma fille et j'ai posé la question aux autres enfants que j'ai à l'association qui l'ont exprimé. Je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez témoigner? Et c'est vrai qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient que ce qu'ils déposent se soit fait avec leurs propres mots à eux. Ils préparent ça consciencieusement parce que les enfants ont fait cette demande auprès de leurs parents qui ont fait la demande à l'avocat. L'avocat a fait la demande du coup au tribunal. Ils sont sur le planning. Et puis, ils préparent leur témoignage donc avec leurs avocats. Ils ont eu des rendez-vous. J'ai eu connaissance de quelques enfants qui ont déjà bien avancé dans leur témoignage. Il y en a qui l'ont terminé. Voilà, il y en a qui le feront à l'oral. Il y en a qui ont fait un support papier. Oui, ils le préparent. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont dit des choses qu'ils n'avaient jamais dit dans leur témoignage. Parce qu'ils estiment que là, ils peuvent tout dire.
Le procès en appel doit durer jusqu'au 14 juin. Bientôt de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi. Après l'échec des négociations avec les partenaires sociaux, le gouvernement va fixer ses conditions avec l'objectif d'atteindre le plein emploi et de favoriser le retour rapide en emploi des chômeurs indemnisés. Ces nouvelles règles entreront en vigueur à partir du 1er juillet. Dans l'actualité internationale, Donald Trump, de nouveau devant la justice, l'ancien président américain est jugé dans l'affaire Stormy Daniels, une ancienne star de film X à qui il aurait acheté le silence juste avant les élections de 2016. À quelques mois du prochain scrutin présidentiel, le candidat à sa réélection risque l'emprisonnement. En Israël, le chef du renseignement militaire israélien a posé sa démission aujourd'hui. Le général Aharon Aliva a reconnu sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attentat du Hamas le 7 octobre dernier. Il avait fait 1171 morts. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que les Juifs célèbrent à partir de ce soir et pendant une semaine Pessah, la Pâque juive, un moment particulièrement sensible cette année. Comme pour le Ramadan il y a quelques semaines, les observateurs craignent des provocation après les attaques réciproques de l'Iran et d'Israël ces derniers jours. Pour Denis Charbit, politologue à Tel Aviv et spécialiste d'Israël, Pessah peut être l'occasion d'une trêve, mais les Israéliens souhaitent surtout la libération des 130 otages toujours retenus par le Hamas.
Je ne suis pas certain que les considérations religieuses entrent dans l'examen des raisons qu'il y a d'attaquer ou de riposter. Il faudrait pour cela que ce message-là soit entendu également par le Hamas, par le Qatar. C'est vrai qu'il faut bien le comprendre. Ce qui va être pour les Israéliens ce soir le plus douloureux, c'est d'abord et avant tout le fait qu'il reste encore 133 otages entre les mains du Hamas. Il y a même eu une demande qui a été adressée à la Croix-Rouge de pouvoir livrer le pain azim et le vin pour pouvoir célébrer la fête pour ceux d'entre eux qui voudraient ou pourraient le faire. On n'est pas très sûr que la démarche aboutisse. Mais en tout cas, ce qui est certain, la question d'une trêve dépasse les volontés des uns et des autres parce que pour une trêve, il faut être deux. Pour libérer des otages, c'est l'humanité qui doit parler.
En France, pour Pessard, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'augmenter la sécurité aux abords des synagogues. Et puis c'est une rencontre œcuménique rare qui s'est déroulée ce matin dans les bureaux de la Conférence des évêques de France. Les membres du secrétariat général ont rencontré le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier. C'est le chef spirituel suprême du monde chrétien orthodoxe depuis 1991. Ce sera justement le sujet de l'actualité chrétienne de demain matin. Dans notre long format ce soir, on part dans les Alpes-Maritimes. Là-bas, comme partout en France, l'eau est tombée en grande quantité au mois de mars et d'avril. Une bonne nouvelle après 2 années de sécheresse. La préfecture n'a d'ailleurs pas émis de restrictions pour ce printemps. Mais la Côte d'Azur prépare tout de même l'avenir. Un futur où l'eau sera de plus en plus rare. Stéphane Chesi-Kostovic.
L'année 2022 et l'année 2023 ont fait réagir les différents acteurs de l'eau dans le département des Alpes-Maritimes parce qu'il y a eu parfois un manque au robinet l'été dernier. Cette année, ça paraît déjà loin. Pourtant, vous allez l'entendre, il y a des communes qui se préparent à voir à l'avenir des sécheresses aussi importantes.
Florence Chevassu, je suis la directrice du CIEVI, le syndicat de l'Estéron et du Var inférieur.
On est à 1 heure de Nice et ici, on se prépare à affronter l'été.
On a décidé de mettre en place plusieurs actions pour faire face à la sécheresse qu'on subit. Donc la mise en place d'une tarification progressive pour les encourager à être plus économes en eau. La deuxième action, c'est la mise en place de compteurs télérelevés sur 50 de nos plus gros consommateurs, justement pour leur permettre de surveiller leur consommation. Et le troisième axe aussi lié à cette sécheresse, c'est plus de relations aussi avec d'autres territoires, vu qu'on a des réseaux qui sont historiquement maillés, et donc se coordonner pour permettre de se secourir nos territoires quand il y a des manques d'eau, autant que de besoin.
Et pour faire face au manque d'eau, l'entreprise Veolia utilise même des chiens qui pistent les fuites dans la terre pour trouver les réseaux qui sont défaillants.
C'est une technique innovante qui a été développée par Veolia. Donc des techniciens cynophiles entraînent les chiens à détecter l'odeur du chlore. Donc c'est complémentaire, on va passer sur des canalisations que l'on ne peut pas forcément écouter parce que ces canalisations passent sur des terrains peut-être inaccessibles ou en tout cas où il n'y a pas de point d'écoute.
Une expérimentation pour l'heure efficace.
Et Stéphane, cette année, l'eau est tombée en quantité suffisante pour les maralpins.
Février, mars, avril, il n'a fait que pleuvoir dans les Alpes-Maritimes. Et il faut le dire, l'indice d'humidité des sols est aussi supérieur à la moyenne depuis le mois de février 2024. Alors on a voulu en savoir plus et on a contacté Stéphane Liotto, chef de service adjoint au service eau, agriculture, forêt, espace naturel de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. Il nous donne quelques informations sur l'eau qui est sous nos pieds.
Alors, les chiffres sont, on va dire, 4 fois supérieurs à la normale. Et pour ce faire, eh ben, il y a plusieurs indicateurs. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de stations dans le département. Et sur ces 40 stations qui font l'objet effectivement d'un suivi, nous avons 38 stations qui ont un écoulement suffisant. L'année dernière, puisqu'à la même époque, nous aurions 25% de cours d'eau qui étaient insuffisants, voire faibles, voire même en à sec.
Une différence nette, mais pour autant, est-ce que les Alpes-Maritimes sont sauvées de la sécheresse pour cette année 2024?
Les nappes phréatiques sont effectivement dans un statut normal, mais les nappes profondes ont quelques soucis aussi de recharge. Nous avons à regarder aussi la qualité des sols au niveau de l'humidification. Nous avons un manteau neigeux, mais de savoir effectivement quelle est la suite par rapport à ça. Donc l'ensemble des indicateurs techniques et notamment aussi le débit des cours d'eau. Donc tout ça sera mis comme on a su le faire sur les 2 dernières années, effectivement de présenter en toute transparence l'ensemble de ces indicateurs techniques.
Cela reste rassurant pour les agriculteurs qui avait fait face à 2 années avec des conditions de production très compliquées.
On a les févettes de Nice, les artichauts, les premières courgettes fleurs, c'est les courgettes dites demi-longues. On a moins consommé d'eau dans notre forage, mais bien sûr, tout est dans la consommation. Demain, s'il pleut plus, on va automatiquement moins utiliser le forage, bien sûr.
Donc ça veut dire que peut-être vous aurez de l'eau plus longtemps
Exactement, avec du coup justement les pluies qui arrosent entre guillemets, automatiquement ça va remplir les nappes phréatiques, ce qui va nous mettre une grosse réserve pour cet été.
Et les Azuréens restent tout de même prudents, les mairies et la préfecture appellent à la retenue, Stéphane.
Pour autant, il ne va pas falloir jouer avec l'eau, les mairies et la préfecture préviennent.
Jean-Pierre Camilla, maire de Saint-Paul et jeune président du CIEVI. Moi, sur Saint-Paul, j'ai 28% de résidences secondaires. Souvent, ce sont des étrangers qui ou ne comprennent pas que le département manque d'eau, ils ne s'en rendent pas compte qu'il y ait de cette problématique, ou ils s'en contrefoutent parce qu'ils sont là un mois et ils se disent... Je vais pas faire des économies, j'arrose mon jardin, je remplis ma piscine et puis voilà.
Même son de cloche du côté de la préfecture.
C'est un bien commun de l'humanité et mon message avec mes équipes, c'est chaque goutte d'eau compte. Voilà, donc à un moment donné, une prise de conscience effectivement des Azuréens, des Maralpins, de l'ensemble effectivement des acteurs et partenaires de ce département. Voilà, la gestion de ressources en eau, c'est effectivement un dénominateur commun. Nous devons mettre toute notre énergie pour concilier au mieux, je dirais, cette gestion de ressources en eau. Nous sommes responsables, nous suivons effectivement l'ensemble des indicateurs et de suivi, mais aussi nous faisons aussi le contrôle réglementaire, à la fois administratif, mais aussi judiciaire. Donc voilà, c'est, je dirais, une responsabilité de mon service, de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, mais aussi de la préfecture.
Merci Stéphane Tchézy-Gostovitch pour ce dossier qui est à retrouver sur notre site. Et puis merci à Nathan Faure qui était à la technique ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de RCF et je vous dis à demain.